France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, il y avait chez eux des tableaux de Watteau, Delacroix, Quirico, Dali, Picasso. Charles et Marie-Laure de Noailles étaient des collectionneurs passionnés, collectionneurs qui côtoyaient tout ce que le monde artistique des années 20, des années 30 avait de plus brillant, des peintres, des sculpteurs, des écrivains, des compositeurs. Collectionneurs, mais surtout mécènes qui ont sollicité les plus grands artistes de leur époque et ont définitivement marqué le XXe siècle. C'est l'histoire formidable de ce couple peu ordinaire que racontent Alexandre Mar et Stéphane Boudin-Lestienne, mes invités, dans un gros livre superbement illustré. Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle, une coédition Bernard Chauveau, Villa Noailles de hier. Éric Lesage au piano, l'Orchestre Philharmonique de Liège, dirigé par Stéphane Deneuve. C'était un extrait de Obad de Francis Poulenc. Bonjour Alexandre Mar, bonjour Stéphane Boudin-Lestienne.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes tous les deux les commissaires de l'exposition permanente qui se tient donc à la Villa Noailles ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Et vous êtes donc les auteurs de ce superbe livre consacré à ce couple peu ordinaire, je l'ai dit, en introduction. Alors qui veut présenter un peu ce couple? Qui était Charles et Marie-Laure de Noailles?
Alors comme vous le dites, c'est un couple étonnant.
Alexandre Mar,
qui a marqué sans doute l'histoire de l'art et l'histoire de la vie intellectuelle et mondaine du XXe siècle. Alors Charles de Noailles naît en 1892, son épouse Marie-Laure Bischoffheim naît 10 ans plus tard. Ils se marient en 1923 et... Ouais. Et déjà, dès leur mariage, le couple est remarqué. Il y a 5 pages dans Vogue, ce qui est une chose absolument incroyable.
Et tous deux, donc, ils héritent d'une fortune considérable.
Alors, on dit en règle générale que Charles apporte le nom d'une grande famille de France.
Et le titre, c'est ça.
Et la fortune viendrait plutôt, en partie en tout cas, du côté de Bischoffheim, de Marie-Laure, puisque lorsque son père décède, lorsqu'elle était tout jeune enfant, elle devient la seule héritière d'une immense fortune. De banque. Et voilà, donc tous les deux allient la noblesse de haut rang, la fortune, mais aussi un esprit incroyable.
Mmh. Et cette fortune qui sera utilisée à bon escient?
Alors, on peut estimer effectivement que ça a été utilisé à bon escient, puisqu'ils vont participer véritablement en mettant, en injectant des fonds en quelque sorte dans l'histoire de la création intellectuelle et artistique française du moins, et en partie un peu européenne, mais surtout française.
Ouais. Et alors, vous venez de dire, Alexandre Mar, donc il se marie en 1923, et je crois qu'il y a dans la Parmi les cadeaux de mariage, il y a un terrain, c'est ça?
Il y a un petit bout de terrain. En haut d'une colline près de Toulon, sur lequel ils vont faire construire une maison. Une maison extrêmement étonnante qu'on peut encore visiter, dans laquelle on travaille avec plaisir avec Stéphane, qui est une maison moderne, cubiste en quelque sorte, un château cubiste, ou un paquebot en haut d'une colline, qui est construit par Robert Malestevens, qui est un grand architecte moderniste français.
Et là, je crois qu'il n'était pas encore très très connu.
Il était même presque inconnu, si ce n'est que les spectateurs de films de science-fiction de l'époque, de Marcel Lherbier, par exemple, pouvaient voir de l'architecture de Robert Malestevens, parce qu'avant de construire la Villa Noailles, il essaye son architecture en quelque sorte dans les décors de cinéma.
Alexandre Amar, est-ce qu'on peut dire que donc le couple Noailles vit entre donc cette villa qu'ils font construire donc à Hyères et également Paris?
Oui, un hôtel particulier, magnifique, qui est dans...
Qui existe toujours.
Qui existe toujours, Place des États-Unis, et qui est, en quelque sorte, dans le corbeille de mariage de Marie-Laure, si vous me passez l'expression. Et c'est un hôtel particulier qui va être en partie décoré par un des grands architectes d'intérieur, ou ensemblier, qui est Jean-Michel Franck, et dans lequel, tout comme ailleurs d'ailleurs, va défiler toute l'avant-garde française pendant 50 ans, et animer de ses créations. Le lieu.
Alors j'ai dit en introduction qu'ils étaient collectionneurs parce qu'ils avaient acheté beaucoup d'œuvres d'art, mais également mécènes. Peut-être peut-on commencer par la partie collection. Quels étaient leur goût en termes de peinture, de sculpture? Est-ce que c'était que de l'avant-garde ou il y avait aussi des œuvres anciennes? Puisque j'ai parlé de Watteau.
Alors c'est ça qui est extrêmement intéressant chez ce couple, c'est qu'ils vont s'intéresser à toutes les formes de création, aussi bien passées que présentes, voire futures. Ils sont tous les deux des héritiers de grandes familles dans lesquelles on compte des collectionneurs importants. Donc déjà, ils ont à la maison, en quelque sorte, ils grandissent au milieu d'œuvres absolument formidables. Vous citiez Watteau, Cranach ou Delacroix. C'est un exemple, quelques exemples parmi de beaucoup d'autres. Mais ils vont aussi s'intéresser à la création qui leur est totalement contemporaine et ainsi aider des Giacometti, des Dali, des Christian Bérard, qui sont encore des artistes émergents, comme on dit aujourd'hui.
Et comment est-ce qu'ils ont formé leur goût? Parce que c'est toujours intéressant de savoir comment le goût des collectionneurs se développe.
Alors, je crois que c'est un esprit curieux. Alors, on parle de peinture, mais on pourrait parler aussi de sculpture. On pourrait parler de cinéma, on pourrait parler évidemment de musique, on va en parler, mais aussi d'ethnographie, puisqu'ils s'intéressent beaucoup à l'essor de cette science nouvelle qu'est l'ethnographie. Ils vont s'intéresser à la littérature, ils vont aider pour beaucoup le mouvement surréaliste en finançant, ou en tout cas en permettant le financement de revues et d'ouvrages. Voilà, ils ont un esprit curieux. Donc un bon collectionneur, un bon mécène est quelqu'un qui, comme eux, sont des esprits ouverts à la création et au bruissement de l'époque.
de Georges Auric, c'était le générique du film d'Anatole Litvak. Aimez-vous Brahms? Vous savez qu'on a reconnu évidemment quelques échos de la troisième symphonie de Johannes Brahms. Alors on a dit tout à l'heure que les Noailles étaient mécènes notamment du cinéma, mais ils n'ont pas soutenu le film de Litvak. Enfin, je ne crois pas, c'était plutôt dans les années 30 avec le sang d'un poète ou l'âge d'or de Buñuel. Stéphane Boudin-Lestienne, pourquoi Georges Auric et quel souvenir y a-t-on dans ce générique?
Ah oui, alors ce générique, vous avez pu entendre le petit mouvement de départ,
ouais.
Et en fait une réminiscence, une reprise du thème principal du Faust magicien, qui est une sorte de petite cantate qui avait été réalisée pour le bal des matières en 1929. Et qui donc était encadré par un spectacle où il y avait une commande faite à Georges Auric et à Francis Poulenc. Francis Poulenc était accompagné de Jean-Michel Franck pour faire les décors d'Aubade,
dont on a entendu un extrait.
Ouais. Et de l'autre côté, il y avait Georges Auric avec Jean Hugo, qui a ouais. fait une lanterne magique pour illustrer l'histoire de Faust, qui était réinventé par Louis Lallois, le librettiste. Mm-hmm. Et donc, par contre, contrairement à Aubade, le Faust magicien n'a eu aucun succès, n'a pas eu de suite, si vous voulez. Je pense ah, que oui. ça a été une pièce beaucoup trop compliquée. Je vous renvoie à notre petit livre.
Vous avez tous les deux écrit un livre sur ce Faust magicien.
Oui. Voilà, qui est
très joliment illustré d'ailleurs. Ouais.
Qu'on a publié l'année dernière aux éditions
Norma. Ouais.
Et qui raconte. Et donc, on a réinventé le livret avec Noël Renaud, puisqu'en fait le livret a disparu et la musique elle-même a été démontée par Georges Auric et il l'a réutilisée dans les années 60 pour la musique du film Aimez-vous Brahms. Donc voilà, donc les échos se retrouvent en fait. Ouais.
Restons dans la musique puisque nous parlons de musique de Charles et Marie-Laure de Noailles et les compositeurs. Donc vous avez cité Poulenc, Georges Auric. Quels étaient les compositeurs qui gravitaient autour de leur orbite?
Alors, il faut citer la personnalité, je dirais, de Jean Cocteau au départ, ouais. que Marie-Laure rencontre quand elle a 15 ans, 16 ans. Donc, ouais. Forcément, donc les premiers contacts avec la musique contemporaine va être par ce biais-là, et donc le groupe des six, forcément, est Francis Poulenc, Georges Auric, Darius Milhaud, on va dire. Alors. Évidemment, ils sont moins proches des trois autres, Neuger, Taillefer et Duret.
Ouais.
Mais ils vont ensuite, par ce biais-là, connaître aussi deux autres personnalités, probablement aussi par l'intermédiaire, comme il explique Henri Sauguet et Nicolas Nabokov. Et Henri ouais. Sauguet raconte que c'est plutôt Georges-Henri Rivière qui lui fait rencontrer ça.
Le musicologue, oui.
Le musicologue, ouais. Et enfin... Et beaucoup de choses, hein, Georges-Henri Rivière.
Oui, il n'est pas que musicologue, en effet. Oui.
Mais justement, il y a aussi André Scheffner, là, pour le coup, musicologue aussi, qui est dans leur cercle. Mmh. Et on peut aussi citer Henri Monet, s'occupe, en fait, donc, de la nouvelle salle Pleyel, et donc de l'orchestre Pleyel, et de toutes ces nouveautés-là, dont souvent il parraine. Et aide les différentes manifestations.
Ouais. Et d'ailleurs, le couple Charles et Marie-Laure de Noailles soutient également la création de ce nouvel orchestre, l'Orchestre Symphonique de Paris, à la fin des années 20.
Ouais. Exactement. Donc, ils font partie du comité, et donc qui organise pour la première fois un orchestre à Paris qui ne soit pas une association, mais où les musiciens sont salariés. Ce qui permet un bien meilleur travail. Et c'est le modèle qui d'ailleurs perdure aujourd'hui. Et il faut s'imaginer que dans les années 20, c'est une nouveauté extraordinaire, en fait.
Ouais. Stéphane Boudin-Lestienne, vous avez évoqué de ce bal des matières en 1929, qui devait être un événement à la fois artistique et évidemment très mondain. Pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça signifiait, bal des matières?
Alors, je pense que c'est une réponse des Noailles à une certaine... au bruissement de Paris, ouais. Qui racontait partout que, effectivement, avec l'aide de Jean-Michel Franck principalement et d'autres décorateurs, ils avaient transformé l'hôtel particulier des grands-parents, hein, des Bischoffheim, qui était dans un style un peu néo-18e, éclectique, en un mélange assez extraordinaire de choses anciennes et de choses très moderne, avec beaucoup de matière, c'est-à-dire que Jean-Michel Franck utilisait le parchemin, la marqueterie de paille, l'ivoire, le bronze, il y avait aussi des meubles de Groult en galucha, en pot, des meubles de Legrain en peau de serpent. Il y avait un, donc ça faisait rire et certainement étonner tout Paris, qui se demandait qu'est-ce que c'était que cette hutte de sorcier. Et donc ils ont voulu répondre et faire une invitation dans laquelle, eh bien, les gens seraient obligés non pas de porter un costume lié à une époque, à un thème, mais des matières qui ne seraient absolument pas utilisées pour l'habillement d'habitude. Et donc, c'est un festival de robes, de miroirs, de paille, de cailloux, de toutes sortes de choses, de plumes. Et donc, c'est un défilé extraordinaire. C'est une idée géniale. Et ça a eu effectivement un succès extraordinaire. Il y a André Scheffner, lui, qui était a eu la mauvaise idée de se faire un costume en liège. Et donc, quand il doit écrire ensuite à Francis Poulenc, qu'en fait, il a très mal entendu sa musique à cause de son costume.
Lucy Shelton, le chœur des Pays-Bas, l'orchestre philharmonique d'Arnhem, tous dirigés par Christopher Lyndon Guy. C'était un extrait du Paradis perdu d'Igor Markevitch. Igor Markevitch, que l'on connaît aujourd'hui davantage comme chef d'orchestre que comme compositeur. Mais c'est vrai que dans ces années 30, il gravitait autour des ballets russes et c'était plutôt un jeune compositeur qu'un jeune chef d'orchestre. Parlons un peu de cette villa Noailles à Hyères. Immense bâtisse, vous nous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'il y avait une vingtaine de chambres, on peut recevoir donc beaucoup, beaucoup de monde. Et quels étaient les types d'événements à la fois mondains et artistiques qui s'y produisaient?
Alors,
Alexandre Marre.
Déjà, cher Philippe Lonturini, il y a un événement extrêmement important à la villa, c'est qu'il y a des cours de gym. Et il faut commencer par cela, puisqu'on
il y a même une piscine.
Il y a même une piscine. Oui, il faut s'imaginer que cette maison, pour reprendre les choses un peu plus sérieusement, le premier projet qui est demandé à Robert Malestévin, c'est une toute petite maison en fait pour le couple. Non, vous riez, mais une toute petite maison pour le couple et les enfants. Voilà, qui est un module d'environ 250-300 mètres carrés. Voilà, mais en fait, qui va s'agrandir parce qu'il y a les amis qui viennent, donc il faut pouvoir les loger. Et puis
oui,
il fait chaud, donc il faudrait une piscine peut-être. Voilà, un squash, parce que le squash c'est sympathique. Donc on arrive à quelque chose qui fait près de 2000 mètres carrés. Mais au début, le projet, je vous assure, était relativement modeste.
Du coup,
c'est aussi un art de vivre, une façon de vivre. C'est l'époque de l'hygiénisme, donc on vit dehors, on fait de la gymnastique. Il y a une piscine effectivement qui est extraordinaire pour son époque. Voilà, mais effectivement, on invite les amis et il se trouve que Charles de Noailles, comme il le dit, aime beaucoup s'amuser avec des gens intéressants et les gens intéressants qui se rassemblent autour de la piscine en faisant de la roue allemande ou simplement en prenant un drink dans son peignoir. C'est André Gide, c'est Francis Poulenc, c'est Louis Buñuel, voilà, c'est Jean Cocteau, c'est René Crevel, voilà, Salvador Dalí, Giacometti, etc., etc., qui se retrouvent là en vacances évidemment, mais aussi pour se rencontrer, parce que la grande force des Noailles et une partie de leur mécénat, en somme, c'est de faire rencontrer les gens et de faire émerger des projets.
C'est ça.
Et ça se fait autour d'une piscine ou autour d'un verre, à la Villa Noailles, où ça peut se faire aussi à Paris, mais à la Villa Noailles, ça se fait comme cela, de façon très simple. Et les gens se rencontrent et des collaborations étonnantes naissent.
Et tous ces artistes que vous venez de citer, Alexandre Baron, figurent dans votre livre. Il y a plein de photos très très chouettes où on les voit effectivement dans ces années 30, dans la villa. Alors aujourd'hui, cette villa Noailles à Hyères, qu'est-ce qu'on y fait? Dans quel état est-elle? Puisque je crois que à la mort de Charles, c'est ça les, non, pardon, de Marie-Laure. Il a voulu la quitter, c'est ça?
Alors oui, la villa, en quelque sorte, comme le dit Charles lui-même, est devenue trop triste sans son épouse. Donc il met en vente la maison. Et c'est la ville de Hyères qui rachète cette villa, ainsi que les terrains attenants, les jardins, puisque Charles de Noailles s'occupait beaucoup de jardins. Il y a toujours des jardins absolument magnifiques. Et aujourd'hui, cette villa est évidemment totalement restaurée et on y organise un certain nombre d'expositions avec Stéphane au sein de l'exposition permanente où l'on dévoile une part de l'histoire de ce mécénat important pour l'histoire du XXe siècle, mais aussi des expositions temporaires sur Jean Hugo prochainement, sur Élise Jobourgeois ou sur Jean Cocteau, sur René Crevel peut-être un jour, ou sur Georges Hunier. Voilà, des expositions temporaires qui met des points de focal sur ces personnalités qui sont passées à la villa, mais aussi des événements très importants qui sont organisés par Jean-Pierre Blanc, le directeur de la Villa Noailles, à savoir le Festival international de mode et de photographie qui a lieu une fois par an au mois d'avril et Design Parade qui s'intéresse au design, faisant vivre cette maison en quelque sorte un peu dans l'esprit des Noailles toujours.
Wer in seiner
Le London Symphonietta, dirigé par David Atherton, c'était un extrait de Mahagoni, Songspiel de Kurt Weill. Stéphane Boudin-Lestienne, comment Kurt Weill a approché le couple Charles et Marie-Laure de Noailles?
Alors, selon l'histoire, a priori, c'est Georges Auric qui s'intéresse à Kurt Weill dans un premier temps, qu'il repère. Puis Georges-Henri Rivière, qui est envoyé en mission à Berlin pour faire venir Kurt Weill, l'Ottolenia et tout l'orchestre pour une soirée extraordinaire entièrement financée par Charles de Noailles à la salle Pleyel ou Gaveau, j'ai un trou.
Pleyel.
Et pour en décembre 1932 où là tout Paris découvre le talent extraordinaire de Kurt Weill, une soirée remarquée. Et la deuxième intervention, je dirais, importante, c'est que donc on est en décembre 32 et les choses commencent à très très mal tourné en Allemagne. Quelques mois plus tard, le Reichstag brûle et Kurt Weill, qui est en vacances pas très loin de la frontière luxembourgeoise, est prévenu par des amis qu'il ne faut pas rentrer à Berlin. Donc il passe en France, il arrive à Paris et là il va à l'hôtel et très vite les Noailles apprennent qu'il est tout seul, qu'il a 500 marques en poche et qu'il faut le secourir en fait. Et ils l'accueillent chez lui et surtout ils vont le présenter en plus à Edward James, qui veut faire recréer les ballets russes et qui va créer donc les ballets 33 avec l'ancien secrétaire de Diaghilev, Boris Kokhno. Et là il va recevoir la commande d'un nouveau chef-d'œuvre, les Sept péchés capitaux, qu'il va faire avec Bertolt Brecht, qui lui aussi en difficulté. Donc c'est un moment effectivement où il va pouvoir avoir une vraie aide, une vraie écoute. Et effectivement, au-delà de ça, ce qui est assez extraordinaire, c'est que même si l'œuvre est payée par Edward James, il va être dédicacé aux Noailles.
Très bien, merci beaucoup Alexandre Mar et Stéphane Boudin-Lestienne. Je rappelle le titre de votre très très beau livre, Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle, édité par Bernard Chavot et la Villa Noailles de hier. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Claude Niort, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.